Radio Okapi. Au moins deux morts, plusieurs familles sinistrées et beaucoup d'ouvrages endommagés. Tel est le bilan provisoire d'une pluie torrentielle qui s'est abattue sur Kinshasa ce mercredi vers 2h du matin. Situation similaire au Nord Kivu où des pluies abondantes qui s'abattent depuis le week-end dernier sont à la base de la perturbation de la circulation sur la route nationale numéro 2. Au Nord Kivu, les combats entre l'AFC M23 aux groupes armés Wazalendo se sont poursuivis ce mercredi dans le groupement Nyamaboko 1er. Selon plusieurs sources locales, deux localités sont particulièrement touchées par ces combats qui exacerbent la crise humanitaire dans la zone. À partir de cette session en cours, les élèves candidats à l'examen d'État devront désormais passer les épreuves orales d'anglais. La mesure concerne toutes les options des humanités organisées en RDC. Elle vise à renforcer les compétences linguistiques des élèves dans un contexte d'ouverture internationale. Pour en parler, nous recevons l'inspecteur général de l'éducation, Hubert Kimbonza Sefou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal Vespéral. Une pluie torrentielle s'est abattue sur Kinshasa ce mercredi dès 2h du matin, causant d'importants dégâts. Selon les premières informations, au moins deux personnes ont perdu la vie, plusieurs familles se retrouvent sinistrées et des infrastructures ont été endommagées, notamment des ponts et des routes. De nombreuses habitations et artères ont été inondées tandis que les érosions ont progressé sur les collines environnantes. Bien que le niveau de l'eau ait baissé dans certains quartiers, plusieurs habitants ont eu du mal à sortir pour vaquer à leurs occupations. Babel Mpongo Massimango nous fait le point.
Les deux morts sont enregistrées sur l'avenue Asosa dans la commune de Bumbu et aussi sur l'avenue Matondo au quartier Monantoulou, commune de Selimbao. Dans presque toutes les communes basses, des inondations sont signalées, conséquence entre autres du débordement des rivières, des canalisations ou de leur inexistence. Kalamu compte deux ponts cassés entre Kauka et Matongé notamment. Les rivières Njili et Nsanga ont déversé leur trop plein d'eau au quartier Kivu, Matadi, Fumosuka, Abattoir pour Massina et aussi au quartier 5, 7, 8, 9 et 11 pour la commune d'Njili. Ici, certaines familles se retrouvent sans abri ce mercredi. À Limete aussi, des habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau au quartier Salongo, Danumba, Mungwele, Fumuzulu, Mumbele et Pakajuma. À Lingwala, le marché Lufungula est inaccessible, celui de Kalembelembe n'est pas épargné. Selimbao est partagé entre les inondations par les eaux de la rivière Makelele derrière la prison de Makala et la progression des érosions sur ces collines, cas de quartier Badiadingi, Mbalaye et Radi. L'avenue des Libérations, ex 24 novembre, est pratiquement coupée au niveau de la rue Panzo, quartier Kengé, à la frontière entre Bumbu et Selimbao.
Toujours à Kinshasa, la reprise des pluies réveille la problématique d'état des routes dans plusieurs quartiers de la capitale. Les habitants de Kimwenza, dans la commune de Mongafula par exemple, se plaignent de la dégradation de la route entrée Bel Air vers Bypass. Cette artère mène notamment vers les campus, le rond-point et la Cité Verte. Selon leur témoignage, cette route était déjà en train d'être asphaltée. Cependant, ils disent constater un arrêt brusque des travaux depuis quelques mois. Ils lancent un SOS aux autorités pour la poursuite des travaux afin de faciliter la circulation. Reportage de Grace Amzati, rendu par Alain Hirung.
À en croire des habitants rencontrés sur place, la circulation sur cette avenue est un véritable parcours du combattant. Des sables et des nids de poules sont au cœur du calvaire. Des véhicules et motos, parfois transportant des élèves et étudiants, s'embourbent, créant ainsi un spectacle désolant. D'où le cri de détresse des habitants. Témoignage.
Cette route, elle est bonne juste au début. On avait commencé à la réhabiliter, on a asphalté. Mais les travaux ont été arrêtés à mi-chemin. On ne sait pas pourquoi.
La réhabilitation de cette route diminuera non seulement les cas d'accident, mais aussi permettra de régler le problème d'embouteillage constaté souvent dans cette partie de la capitale, notamment sur la route bypass, rond-point Gaba et Cité Verte. affirment les témoins qui interpellent le gouvernement.
La route qui nous mène de Kimwenza jusqu'à Rond-Point, pour le moment, on ne sait pas. Et ça va continuer des travaux, au bout des travaux sont arrêtés jusque-là.
Cette situation de délabrement des routes est également observée dans d'autres coins de la capitale et occasionne des dégâts, surtout pendant la pluie.
Situation similaire au Nord Kivu où des pluies abondantes qui s'abattent depuis le week-end dernier sont à la base de la perturbation de la circulation sur la route nationale numéro 2. Au cours de la journée d'hier mardi, la mobilité n'a pas été possible entre la ville de Goma et quelques localités du territoire de Rutshuru, dont Kiwanja et Kanyabayonga. Les eaux de la rivière Rutshuru ont débordé de leur lit en submergeant le pont, empêchant ainsi la traversée. Le point avec vous, Ronéline Tibonera.
Les usagers de cette route rapportent que des colonnes de véhicules de moyens et gros tonnage chargés de produits divers étaient visibles de part et d'autre du pont qui surplombe la rivière Rutshuru. C'est au niveau du village Nyahanga dans les territoires de Rutshuru. Des torrents d'eau issus des grosses pluies qui se sont abattus dans la région tous les week-ends sont venus augmenter les niveaux des eaux de la rivière, dépassant même la hauteur du pont, ce qui a été à la base de la paralysie de la circulation. Ce mercredi matin, les transporteurs à moto ont commencé à franchir la rivière par un passage qu'ils auraient pratiqué un peu plus en amont du pont, alors que la majorité des véhicules attendent la décrue de la rivière pour espérer reprendre les trafics. Les usagers de la route Goma Kiwanja Kanyabayonga plaident pour des travaux durables en vue de l'amélioration de la circulation. Cette route d'intérêt vital se transforme généralement en parcours des combattants durant la saison de pluie, déplore-t-ils.
Au sud Kivu voisin, les sages-femmes de cette province ont lancé une initiative de clinique mobile destinée à appuyer les maternités situées dans les zones périurbaines et rurales affectées par la guerre. Cette unité mobile parcourt les hôpitaux des territoires de Kabare, Kalehe et Walungu afin d'apporter un soutien médical et logistique aux structures locales. Nestor Bafunyembaka, vice-président de la Corporation des sages-femmes du Sud Kivu, détaille les objectifs et les activités de cette opération dans ses propos recueillis par Jean Kassami.
Jusqu'à présent, ils sont encore à Calais. Ils vont terminer 2 mois par rapport à ce que nous nous sommes convenus. Après Calais, nous allons voir maintenant comment aller souvenir vers Walungu, Kanyola et Amubumbano. Mais toutefois, c'est en demandant sécurité aux autorités, que ce soit locales ou gouvernementales. Puisque vous savez, c'est là où se trouvent maintenant les grands sites de combat. Et ces sages-femmes, ils ont terminé déjà à la zone de santé de Kavumukaranda et Formila Katana. Et c'est comme ça que nous sommes en train de renforcer la capacité des sages-femmes qui sont sur le terrain. Ce sont des mentors, des formateurs. Ils sont en train de travailler dans des maternités, en train d'aider les autres à se rattraper. Il y a des techniques qui sont appropriées pendant les catastrophes de guerre, des violences sexuelles, des violences basées sur les genres, des problèmes de kits dans les matériels qu'il faut utiliser.
La situation sanitaire reste préoccupante dans le secteur des Bébé Bahemba, situé dans la localité de Kibangula, territoire de Kabambaré. Le président de la société civile Force Vive, antenne de Kibangula, tire la sonnette d'alarme et interpelle les autorités compétentes. Selon cette structure citoyenne, l'eau potable s'est fait de plus en plus rare dans cette partie du pays. Les habitants, en particulier les femmes, sont contraints de parcourir de longues distances et de patienter plusieurs heures pour se procurer un bidon de 20 litres. Notre source signale également l'enregistrement de plusieurs décès dus au manque de médicaments dans les structures de santé locales. Un reportage de Florence Kizalunga.
Privée d'accès à l'eau potable, la population de Kibangula dans le territoire de Kabambaré n'a d'autre choix que de puiser l'eau directement dans la rivière, s'exposant ainsi à de graves risques sanitaires. Face à cette situation critique, Amsini Selemani Toms lance un appel pressant aux autorités provinciales et aux hommes de bonne volonté pour une intervention urgente afin d'éviter une crise humanitaire.
L'eau que la population est en train de boire n'est pas du tout convenable pour la consommation population.
Amsini Selemani Toms alerte également sur le manque de médicaments dans les structures sanitaires de la région. Il appelle les autorités provinciales ainsi que les personnes de bonne volonté à intervenir rapidement pour éviter une aggravation de la situation.
Dans presque toutes les structures sanitaires, le manque de médicaments se fait sentir avec acuité, surtout ceux traitant la malaria et la tuberculose.
Le coordonnateur provincial du programme national de lutte contre la lèpre et la tuberculose confirme la pénurie de médicaments dans les structures sanitaires de Kibangula. Docteur Jean-Luc Soukaï reconnaît un retard dans l'approvisionnement, mais assure que la situation sera bientôt résolue. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Santé encore cette fois-ci dans la Tchopo. L'hôpital militaire de la 3e zone de défense, en collaboration avec l'association des épouses des militaires de la 31e région militaire, organise une campagne de dépistage volontaire du cancer des seins et celui du col utérin. Débutée lundi dernier au centre hospitalier du camp Sergent Kétélé, elle va se poursuivre pendant au moins une semaine. L'objectif à atteindre est de consulter plus de 150 femmes. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Pendant les deux premiers jours, 54 femmes ont été consultées. Parmi elles, un cas suspect de cancer et 4 de fussiles sont détectés. Pour le docteur Paulin Amissi Boutalé, médecin chef de staff intérimaire, il vaut mieux prévenir que guérir.
On doit réaliser de telles campagnes pour que ça puisse nous aider à découvrir ça bien avant et chercher à trouver des solutions palliatives beaucoup plus en avance.
Cette campagne a été précédée par la sensibilisation des femmes, dont la plupart sont des déplacés des guerres en provenance de l'est du pays. Elles ne craignent pas de se faire dépister, comme l'explique l'infirmière titulaire du centre, l'adjudant Gisèle Mbenga.
Toutes les femmes que nous recevons sont bien préparées, psychologiquement et physiquement, donc ils n'ont pas peur.
Ces femmes sont conscientes du bien fondé de ce dépistage. L'une d'elles en témoigne.
Je suis venue ici afin de connaître mon état de santé, parce que si la maladie est détectée à temps, il y a possibilité de guérir. Sinon, il est difficile de se rétablir.
Le médecin chef de staff par intérim lance un appel pathétique aux autorités hiérarchiques afin d'appuyer ce centre en médicaments, car, souligne-t-il, plus de 50% des femmes consultées souffrent des maladies sexuellement transmissibles. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, les combats opposant l'AFC M23 aux groupes armés Wazalendo se sont poursuivis ce mercredi dans le groupement Nyamaboko 1er en secteur Osso-Banyongu, territoire de Masisi. Selon plusieurs sources locales, les localités de Ngululu et Katandwa sont particulièrement touchées par ces combats qui exacerbent la crise humanitaire dans la zone. Pendant ces temps, un calme précaire s'observe ce matin dans la localité de Mueso, en chefferie de Bachali. C'est après des crépitements de balles toute la nuit de mardi à ce mercredi. Les détails avec vous, Élisée Chikota Chivueta.
Dans le groupement Nyamaboko 1er, secteur Osso-Bayungu, les combats ont repris très tôt ce mercredi sur les deux axes, indiquent nos sources dans la zone. Sur l'axe Ngululu, ces sources parlent de l'avancée des groupes armés. C'est notamment le Wazalendo du groupe Force Défense des Droits Humains, FDDH Nyatura, qui aurait occupé le village Mulema ce mercredi matin. Cependant, sur l'autre axe de la localité Katandwa, l'AFCM 23 aurait avancé jusqu'à occuper ce matin, les villages Karere entre 2 à 3 kilomètres du centre de Kazinga. Jusqu'à milliers de journées, les crépitements d'armes lourdes et légères se faisaient encore entendre dans cette zone, ce qui intensifie les déplacements des populations vers les localités voisines. Par ailleurs, un calme précaire s'observe dans la cité de Mueso, en groupement Bachali Mokoto, après une panique observée dans la nuit de mardi à ce mercredi. Certaines sources indiquent que hier mardi, un officier de l'AFCM 23 a été abattu dans une embuscade tendue par des présumés Wazalendo sur l'axe Mokoto-Kibarizo alors qu'il revenait d'une mission. L'annonce de sa mort aurait déclenché la colère des combattants du mouvement rebelle basé à Mueso.
En Ituri, environ 4000 déplacés installés près de la base militaire de la MONUSCO attendent depuis 3 mois de regagner leur village d'origine. Ils affirment que les menaces des groupes armés persistent dans la zone, les empêchant de rentrer chez eux. Ces déplacés appellent les FARDC à renforcer leur présence et demandent aux casques bleus d'intensifier les patrouilles pour assurer la protection des civils. Ils se sont exprimés mardi au cours d'une rencontre avec une délégation de la mission onusienne. Isaac Remoyope pour plus de détails.
Plus de 1200 familles déplacées vivent encore près de la base militaire de la MONUSCO dans le groupement Jina, territoire de Djougou. Elles avaient fui les combats du mois de septembre dernier entre les FARDC et la milice Convention pour la Révolution Populaire, la CRP, dans une dizaine de localités. Ces déplacés passent pour la plupart leur nuit à la Belle Étoile. Avec les fortes pluies de ces derniers jours, beaucoup se sont réfugiés dans les abris précaires d'autres familles où une dizaine de personnes partagent parfois une seule pièce. L'accès aux champs reste difficile à cause de la présence des miliciens. Certains déplacés s'y rendent discrètement, profitant des patrouilles de la MONUSCO pour chercher de quoi se nourrir. Face à ces conditions de vie précaires, les déplacés de Jina ont exprimé mardi leur souhait de rentrer dans leur village. Ils appellent le gouvernement à renforcer la présence des FARDC dans la zone et à relancer les dialogues entre communautés pour consolider de la cohésion sociale souvent fragilisée par les conflits armés. De leur côté, les casques bleus poursuivent les patrouilles pour prévenir toute attaque des groupes armés encore actifs dans cette partie de Djougou. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, la rupture est-elle consommée entre le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko? Depuis mardi 11 novembre au soir, un duel politique s'est ouvert sur la question de qui doit diriger la coalition Diomaye président créée pour rassembler les soutiens à la candidature présidentielle de Bassirou Diomaye Faye en 2024. À l'époque, Ousmane Sonko ne pouvait pas y participer. L'Algérie a accepté une demande de l'Allemagne de gracier et transférer l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, emprisonné depuis 1 an dans ce pays, pour qu'il puisse y être soigné, a indiqué un communiqué de la présidence algérienne mercredi 12 novembre.
L'invité.
Vous le savez, à partir de la session 2025-2026, les élèves candidats à l'examen d'État devront désormais passer une épreuve orale d'anglais. Cette réforme a été annoncée dans une correspondance datée du 4 novembre émanant de l'inspection générale de l'éducation nationale et adressée aux inspecteurs principaux et provinciaux. La mesure concerne toutes les options des humanités organisées en RDC. Elle vise à renforcer les compétences linguistiques des élèves dans un contexte d'ouverture internationale. Pour en parler, nous recevons l'inspecteur général de l'éducation, Hubert Kimbonza Sefou, qui s'entretient avec Jody Daniel Kachama.
Monsieur Hubert Kimbonza Sefou, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Kachama.
Qu'est-ce qui a motivé cette décision d'introduire une preuve orale d'anglais à l'examen d'État?
Ce sont les textes juridiques qui disent clairement que l'enseignement en RDC est fait en langue locale, langue du milieu pour les classes élémentaires de primaire, et au fur et à mesure qu'on évolue, il y a les langues du milieu qui cèdent leur place au français et à l'anglais, jusqu'à ce que les apprenants vont pouvoir terminer leur cursus scolaire. C'est dans cette logique que l'on s'est dit, et surtout avec les différentes réformes que son Excellence Madame le Ministre d'État est en train d'introduire dans notre système éducatif, au vu et aussi ce qui se passe à travers le monde, il n'est un secret pour personne, nos enfants à nous, vos enfants, chers journalistes, quand ils terminent leurs études au niveau secondaire pour poursuivre les études universitaires, que ce soit en présentiel ou en ligne, ils sont confrontés à des multiples difficultés. La première, c'est celle de l'apprentissage d'une autre langue, là où ils vont. Si c'est à l'étranger, il faut que les enfants passent toute une année pleine, non pas pour étudier, mais pour apprendre l'anglais. Ça, c'est la première difficulté. La seconde, quand on quitte Kinshasa, même sans avoir quitté Kinshasa, on est à l'aéroport, quand on monte à bord d'un avion, si c'est pour des compagnies étrangères, celui qui ne maîtrise pas la deuxième langue d'enseignement à part le français devient dépaysée à bord même de l'appareil volant. La troisième difficulté, c'est celle en rapport avec les domaines scientifiques, les domaines technologiques. Il n'est un secret pour personne pour dire que la plupart de nos notices de médicaments sont en anglais. La plupart des notices des appareils que nous utilisons à la maison, appareils électroniques, appareils électriques, ainsi de suite.
Oui.
Et voilà, tout ça, c'est en anglais. Et nous éprouvons des difficultés terribles, nous n'arrivons pas à nous en sortir. C'est comme ça qu'on s'est posé la question. Est-ce qu'un enfant qui termine ses 3 ans du préscolaire, ses 8 ans du primaire et du cycle terminal de l'éducation de base, ses 4 ans du cycle terminal pour les humanités, est-ce qu'il est normal que cet enfant qui a appris l'anglais aille à l'étranger pour passer une année de plus pour que les parents continuent à le prendre en charge parce qu'il doit apprendre de l'anglais? Ça ne peut pas s'expliquer. Nous commençons pour cette année 2025-2026 à l'oral d'anglais. Comme ça, les élèves, les parents, les enseignants, les gestionnaires vont se rendre compte pour mettre du sérieux dans l'apprentissage, dans l'enseignement du cours d'anglais. Mmh. De sorte que 6 ans après la réforme, que l'oral d'anglais ait maintenant sa sœur qu'on appelle la dissertation.
Bien, monsieur Hubert Kimbonza, une précision. Alors, cette épreuve orale d'anglais, comment elle va se dérouler? Est-ce que ça va se passer au même moment que l'oral du français et dans quelles conditions?
Oui, effectivement, c'est dans les conditions de la passation de l'oral de français. C'est la première année, nous savons, et nous allons préparer des instructions pour des orientations claires et nettes. Comme c'est une première année, nous aurons à leur dire quel type de questions ils doivent poser, quelle attitude ils doivent adopter devant ces apprenants, ces candidats à l'examen d'État, pour que les choses se déroulent normalement.
Alors, comment se fera la répartition des points? Est-ce que ça suivra les normes déjà prévues par le programme officiel?
Oui, nous avons déjà retouché le programme officiel de l'examen d'État que nous appelons le E30D. Nous l'avons déjà signé. C'est tout simplement 2 points. 2 points qui signifient ou qui veulent dire 2%. Et c'est comme à l'oral aussi des Français, ça sera la même chose.
Bien, merci beaucoup monsieur Hubert Kimbonza. Je rappelle que vous êtes inspecteur général chef du corps de l'éducation nationale. Merci et à la prochaine.
Oui, merci beaucoup monsieur Jordi, merci beaucoup.
C'était notre invité Hubert Kimbonza Sefou qui s'entretenait avec Jody Daniel Kachama et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal du soir coordonnée par Richard Junior Kamunga, supervisé par Lévin Mwingavubu. La mise en onde était assurée par Billy Landry Betou et Alain Goy. Vous pouvez encore réécouter ce journal sur toutes nos plateformes numériques ainsi que sur notre site internet www.radiocapi.net.